des portions d'un film qui s'appelle La Nativité. C'était, ça a sorti l'année dernière en théâtre. Puis là, on regarde de ces 96 minutes des portions, quatre portions dans les quatre prochaines semaines. On a commencé la semaine dernière et ça parlait particulièrement de l'attente messianique. Le film nous présentait cette attente messianique. Comment les Juifs attendaient, il y a 2000 ans, un Messie pour les délivrer des maux de la terre, pour les délivrer en particulier du joug romain. Mais leur attente était un peu croche. Jésus était venu pour libérer son peuple, certainement, du joug, certainement, mais c'était du joug de l'esclavage de leur péché. C'est pour ça qu'il était venu. Ils avaient une attente, mais elle n'était pas focussée au bon endroit. Plusieurs, encore aujourd'hui, sont dans l'attente. C'est le temps de l'Advent, puis ils attendent. C'est hier, je pense. Mon épouse a été magasinée. C'est le temps de l'Advent, hein? Puis elle a ramené un gros poster, avec un CD aussi pour mettre dans des chants de Noël, mais un gros poster. Puis je dirais pas d'où, Canadian Tire, par exemple, mais un gros poster, et c'était le gros poster de l'Advent aussi. Imagine, à cet endroit-là. Et là, dans ce poster-là, il y a des petites portes, puis on peut ouvrir une porte à chaque jour. Alors, bien entendu, on a des jeunes enfants chez nous. Alors, notre plus jeune bébé, il voulait ouvrir la porte 1, mais il dit, oh, ça disait 20% pour la semaine prochaine. Mais elle voulait tout de suite ouvrir la porte 2, la porte 3. J'ai dit, wow, c'est fait pour attendre une journée à la fois. Beaucoup d'entre nous, puis je ne veux pas condamner ma fille plus que personne d'entre nous, plus que moi non plus. Mais pour plusieurs, c'est l'attente de l'avant, c'est l'attente de recevoir des choses. L'attente de recevoir ce qui va être au pied de l'arbre de Noël. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu nous invite à l'attente aussi. Mais pas avoir la tête en bas vers un arbre, ou des mais d'avoir, de lever la tête. Parce que notre délivrance approche. La délivrance des maux de cette terre approche. Et Dieu nous invite, dans le temps de l'Avent, à lever nos têtes. Jésus revient bientôt. Les premiers chrétiens se saluaient avec cette notion « Maranatha ». Jésus revient bientôt. Et les gens levaient la tête. Et la Bible termine avec Jean qui lève la tête et qui dit « Oui, viens, Seigneur Jésus ». C'est-tu votre attente ce matin? Quand vous parlez c'est le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. Jésus est venu une première fois et dit, je m'en vais revenir. Est-ce que nous l'attendons? Dans le dernier discours de Jésus sur le mont des Oliviers, c'est le Luc chapitre 21 que nous sommes en train d'étudier. Dans ce dernier discours, Jésus a tracé le plan de Dieu pour Israël et pour le monde. Et il a commencé par encourager ses disciples à persévérer dans les moments difficiles qui allaient venir, mais aussi de leur indiquer de lever la tête parce qu'ils devaient attendre son retour. Et à partir de la question des disciples sur la destruction du Temple de Jérusalem dans Luc chapitre 21, Jésus a présenté les changements dramatiques que la religion juive puis que le peuple juif allait subir dans les temps à venir. Et il y a deux semaines, on a regardé un peu. Deux semaines? Non, la semaine passée. La semaine passée, on a regardé Luc 21 ou il y a deux semaines. En tout cas, je pense que c'est la semaine passée. On a regardé comment Jésus avait averti les premiers disciples de la persécution qui allait découler de la naissance de l'Église. Et il avait donné un portrait général aussi de la période présente que l'on appelle le commencement des douleurs. Et dans cette période où Dieu aussi est patient, où l'Évangile est partagé à toutes les nations et l'Évangile est annoncé dans toutes les régions du monde. Et il présente ensuite une autre période qui va suivre cette période des commencements des douleurs, une période que la Bible appelle la grande tribulation. Une période de désolation, de détresse, de vengeance divine pour Jérusalem, de manière à amener Israël à la repentance, à amener Israël sur ses genoux, puis à le forcer dans son joug, à lever les yeux et à invoquer son Messie, Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Et le jour où Israël va faire ça, il va se tourner vers son Messie. La Bible dit qu'il va avoir une conversion nationale d'Israël. Et ça, ça va provoquer la promesse de Jésus. Il va revenir en gloire. Il va libérer Israël. Et il va instaurer sur la terre un royaume millénaire messianique. Si Israël est dans les médias encore cette semaine avec toutes sortes d'accords de paix, il va l'être encore pour un bon bout de temps. Parce que Dieu n'a pas fini son plan envers Israël. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde dans Luc chapitre 21, les versets 20 à 38, cette deuxième période, la première période, le commencement des douleurs, cette deuxième période, je dirais, après l'enlèvement de l'Église, que l'on va appeler la période de désolation, de grande détresse pour le peuple juif, avant le retour glorieux du Seigneur Jésus sur la terre. Et on pourrait passer énormément à expliquer les détails de cette période-là qui remplit des dizaines de livres, cette période de la grande tribulation. Ce matin, j'aimerais plutôt présenter le plus simplement possible les faits. Pour arriver à une deuxième chose, à regarder plutôt les recommandations que Jésus voudrait que l'on ait, que l'on retienne pour nos vies. Si vous voulez avoir plus de détails sur la grande tribulation, puis toute l'eschatologie, la doctrine des choses futures, je vous encourage à aller sur le site de l'Église. Jean Gauguin qui met les messages. Ce matin, si vous aviez regardé le site de l'Église, vous auriez eu le message avant, vous pourriez l'avoir écrit ce que devant vous. Il est sur le site de l'Église. Sur le bulletin de l'Église, vous avez toujours l'adresse de notre site Internet. Sachez que tous les enseignements que je fais, depuis les 13 dernières années, sont sur le site de l'Église. Là. Jean me disait ce matin, 500? Il y a 520 messages. Alors, ce que j'ai devant les yeux là pour prêcher ce matin, vous pouvez l'avoir chez vous depuis les 13, 14 dernières années que j'enseigne. Ça va tout sur le site. Alors, Daniel 2, Daniel 9, c'est écrit par texte biblique, c'est alors Daniel 2, Daniel 9, Matthieu chapitre 24, il y a des enseignements là-dessus, Matthieu chapitre 25, parce que j'ai déjà prêché des années passées là-dessus. Allez fouiner là-dessus, puis vous allez avoir toutes sortes de détails. Mais ce matin, je ne veux pas arrêter aux détails, je vais prendre la grande image des faits simples pour arriver à qu'est-ce que Dieu nous recommande face à ça. Vous avez trouvé Luc chapitre 21, j'aimerais qu'on lise à partir des versets 20. À 38. Mais on va prier encore Dieu d'abord. Seigneur grand Dieu, je veux juste te dire merci encore une fois pour ta parole. Tu nous as quittés il y a 2000 ans, mais tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Tu as placé devant tes disciples le plan pour l'avenir de l'Église, comme pour l'avenir du peuple d'Israël. Et Seigneur notre Dieu, ce matin, on voudrait encore juste goûter un peu à ce que tu as prédit, ce que tu as prophétisé. De sorte que nous soyons de plus anxieux à lever les yeux vers lever nos têtes, à nous redresser. Parce que la vraie venue n'est pas celle des cadeaux, mais celle de ta venue. Tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi pour l'éternité. Et tu nous demandes d'être prêts, de lever nos têtes. Alors Seigneur, dirige-nous encore dans ta parole. Parle à nos cœurs. Nous t'en prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Luc chapitre 21, à partir du verset 20. Alors, on est au milieu du message de Jésus et il arrive à la période de détresse, comme je mentionnais. Chapitre 21, verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs par toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. C'est notre deuxième partie du sermon sur le mont des Oliviers, où Jésus place le plan de Dieu dans l'histoire. Alors que la section précédente, des versets 8 à 19, nous rapportait l'histoire du monde en général après la résurrection de Jésus, bien la présente section touche particulièrement le peuple d'Israël, la ville de Jérusalem, la province de Judée durant le temps des nations. Ça dit, lorsque vous voyez Jérusalem, et dit que ceux qui sont en Judée, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, la colère va être contre ce peuple. Soudainement, le texte se concentre sur le pays des Juifs, sur le peuple d'Israël. Et pour Jérusalem, ça sera un temps de désolation, dit le verset 20, alors que sa désolation est proche. Dans le livre de Daniel, Daniel parle de cette abomination de la désolation qui va être faite par le dévastateur dans Daniel chapitre 9, verset 27. Matthieu chapitre 25, le 24, le verset 15. Matthieu, il répète cette même chose. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, tel que le prophète Daniel l'a dit, attention, la désolation de Jérusalem est proche. Un temps de désolation. Paul va dire plus tard dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4, il va dire que cet homme impie-là qui va créer la désolation, il dit qu'il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans un futur plus ou moins rapproché, la grande tribulation va être manifestée par un homme qui va venir désoler la religion juive, il va la bafouer. Il va aller dans le temple, il va s'appeler lui-même Dieu. C'est le temps de la vengeance pour le peuple d'Israël. Ça va être un temps de guerre, le texte dit. La ville de Jérusalem va être assiégée par des armées. Ça va être un temps d'angoisse, un temps de terreur, il dit, parmi toutes les nations de la terre, parce que il n'y aura pas juste à Jérusalem que ça va brasser, mais les puissances des cieux vont être ébranlées. J'étais étonné cette semaine en lisant ça. Ça disait... Quand il parlait de la puissance des cieux, il dit « Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Mais il dit « Ils vont être dans l'angoisse au bruit de la mer et des flots. Je trouvais ça drôle que particulièrement les choses vont être ébranlées, mais ça va faire peur, particulièrement avec la mer et les flots. Puis je me disais, mon ami, qu'est-ce que j'entends d'un dernier? Mais je vais pas faire de lien direct, mais je dis, on parle de tsunami maintenant, la grosse affaire, les flots dangers, on parle de réchauffement de la planète, l'eau qui monte, qui va ravager partout. Je dis, ça fait bizarre. Il spécifie particulièrement la mer et les flots dans tous les changements célestes qu'il va y avoir dans les puissances célestes qui vont être ébranlées. Mais ce sera un temps de grande détresse, de grande tribulation. La Bible a dit que ça va être un temps de vengeance. À Dieu la vengeance. Et Dieu va exercer sa colère, sa vengeance sur son peuple. Un temps de détresse, de colère, la Bible dit, contre ce peuple, contre le peuple d'Israël. Comment ça va arriver? Comme je vous l'ai dit, je veux juste vous laisser rapidement. Je vous ai parlé la semaine passée, mais c'était il y a deux semaines. Parce que la semaine passée, on a eu un beau baptême. On n'a pas parlé de Luc chapitre 21. Mais si je peux placer dans un bloc très rapide un peu les événements, le plan de l'histoire pour Israël. D'abord, il y avait le temps que je peux appeler, la Bible avait appelé le temps d'Israël. Un temps où Israël a été formé à partir d'Abraham jusqu'à Samuel. Et Dieu a créé la nation d'Israël. Par la suite, Dieu a placé un roi sur Israël. C'était le temps de la monarchie, à partir du roi Saül jusqu'au dernier roi des Juifs, où il y avait la domination sur leur pays, le roi Sédécias. Et dans le temps d'Israël, il y a eu un temps après ça de déclin, et Israël a perdu la nation. Ils ont été déportés en Assyrie, et par la suite, ils ont été déportés à Babylone. Et depuis ce temps-là, depuis la déportation des Juifs à Babylone, la Bible appelle le temps où les Juifs vont être dominés le temps des nations. Vous avez ici au verset 24, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Ce temps des nations, le temps où les nations dominent sur Israël, et ça c'est depuis 600 avant Jésus-Christ, quand Nebuchadnezzar est entré dans Jérusalem, il a détruit le temple. Alors c'était le temps où, si vous regardez les études sur Daniel, par exemple. Daniel va voir la statue avec les quatre grands empires qui vont se suivre avant que Jésus, le Messie, vienne établir son royaume sur la terre. Il va parler dans Daniel chapitre 9 de ces quatre empires-là, babyloniens, perses, grecs, romains, l'empire dans lequel Jésus est venu. Alors, nous sommes encore dans ce temps des nations où l'Empire romain était là. Dans le temps des nations, c'est le temps de l'incarnation du Messie sous l'autorité romaine. Le Messie, la Bible dit dans Daniel chapitre 9, il va être retranché. Et pour la rédemption du monde, pour l'expiation des péchés. Jésus a fait ça déjà pendant ce temps des nations. Et il a établi l'Église maintenant pour toutes les nations. Il a dit, allez, faites de toute la ville de Jérusalem des disciples. C'est ça qu'il disait? Non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un message différent que Jésus. Maintenant, l'Évangile était là pour toutes les nations. L'Église a été établie par toutes les nations. Et Jésus disait dans son message, dans Luc chapitre 21, ce qu'on a vu il y a deux semaines, ça va être aussi l'implantation de l'Église primitive va être très dure pour les disciples. Et par la suite, il y aura le commencement des douleurs à travers le monde, sur la terre. Mais dans le temps des nations, la bonne nouvelle va être répandue dans toutes les nations. Et ensuite va venir la fin, on voyait il y a deux semaines. La bonne nouvelle va être répandue par tout le monde. Et quand va venir cette fin-là, elle va être caractérisée par une désolation et une détresse. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Il y aura une pression de plus en plus accentuée sur le peuple d'Israël et sur le pays d'Israël. Et puisque Israël est revenu dans son pays en 1948, puisque la nation renaît dans un sens, il y a un temps maintenant de réveil, d'anticipation de tout le monde sur la polarisation de la nation d'Israël. Je m'imagine que vous voyez ça dans les nouvelles comme moi, là. Ce petit pays-là qui est dans les nouvelles à toutes les semaines, qui met le président Bush faire serrer des mains encore cette semaine, là. C'est spécial, cette notion-là. Mais c'est un temps où de plus en plus il y aura une pression sur Israël de désolation, de détresse, où Jérusalem va devenir et va à un moment donné être foulée par toutes les nations. Et quand les Juifs, dans leur orgueil, auront plus rien à tenir, qu'ils vont être écrasés, qu'ils vont être sur leurs genoux, Il ne restera plus d'espoir. La Bible dit, à ce moment-là, ils vont lever la tête, puis ils vont invoquer celui qu'ils ont percé. Qui ils ont percé? Le Seigneur Jésus. Là, ils vont dire, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens, sois notre sauveur. C'est toi notre Messie. C'est toi qu'on attend. Et quand il y aura ce moment-là, la Bible a dit que ce ne sera pas juste un ou deux ou trois Israélites qui vont se convertir comme ça, mais ça va être une conversion nationale. Quand ça va arriver, Jésus va revenir. Il va revenir et là, ce sera le temps de la restauration d'Israël. On va regarder deux textes un petit peu plus tard. Mais après le temps des nations, il y aura le temps de la restauration d'Israël. Et là, il y aura le retour de Jésus en gloire que l'on mentionne. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance puis une grande gloire. Il ne viendra pas d'une crèche comme il est venu la première fois. Il ne viendra pas à Bethléem, dans un endroit caché, mais il va venir avec puissance, avec une grande gloire. Il va revenir en gloire et il va établir sur la terre la justice. Un royaume messianique va être établi sur la terre, la Bible dit, pendant 1000 ans, et dont le centre sera Jérusalem. Et après ces 1000 ans-là, la Bible dit qu'il y aura une dernière rébellion qui est étouffée, et tout de suite, on passe après ça non seulement non plus au royaume messianique du Messie, mais le royaume éternel, où là, il y a le jugement dernier, la séparation finale avec la félicité éternelle ou la damnation éternelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour ceux qui ne sont pas pliés le genou devant l'autorité de Jésus, son salut. Et après ça, c'est l'éternité. La Bible dit, la mort sera plus, il n'y aura plus de malédiction. Toutes choses vont être nouvelles. C'est le plan de Dieu en quelques lignes de cette période de grande tribulation. Détails, lisez Matthieu 24, 25, Marc 13, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9. Mais j'aimerais qu'on regarde ce que Jésus est en train de dire dans le texte, par exemple. Comment est-ce que je devrais vivre dans l'attente de ce qui va arriver? C'est ça qui est important. Voyez-vous, aujourd'hui, on a toutes sortes de fantaisies sur qu'est-ce qui va arriver, comment il va arriver. Je vais parler de tsunami puis de l'eau qui monte. On pourrait voir toutes sortes d'attractions dans le monde qui nous dire « Hey, ça, il va arriver ça, ça, il va arriver ça. » Et savez-vous, quelquefois, on est tellement centré sur les détails qui vont arriver dans le futur qu'on ne regarde pas qu'est-ce que Dieu s'attend de moi aujourd'hui. On aime bien gros l'horoscope, quasiment. On aime plus qu'est-ce qui pense arriver plus tard que qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Et ce que j'aime dans le texte de Luc, chapitre 21, ce matin, Jésus il a ramassé rapidement l'information pour en arriver à dire, qu'est-ce que je veux que vous fassiez en attente de mon retour? Et il fait des recommandations d'abord aux Juifs, au verset 21. Il leur dit, sortez. Quand vous allez voir que la soupe est particulièrement chaude à Jérusalem, restez pas là, sortez. Dans notre ère, Jérusalem ne sera pas protégée de la colère de Dieu. Durant le temps des nations, le pays d'Israël puis la ville de Jérusalem ne sera pas divinement protégée. Ça va prendre le Seigneur Jésus pour revenir établir, mais avant ça, aller se cacher à Jérusalem pour pas avoir de pression militaire ou politique, c'est pas le bon endroit pour aller se cacher. Jésus dit, sortez de là. Parce que dans le temps des nations, la Bible dit que les Juifs auront un esprit d'assoupissement, d'engourdissement. Romains chapitre 11, verset 8. Et puis le pays d'Israël va être dominé. Il sera pas dominant, il va être dominé par les nations étrangères. Parce que le désir de Dieu, c'est que ce soit la conversion des païens qui doit être la priorité dans le plan de Dieu. Ce que Dieu veut qu'il nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on l'Évangile se déplace de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Tournez avec moi dans Actes chapitre 1, verset 6. Jésus a dit ces choses dans le verset 32, vous avez Actes chapitre 1, verset 6, là, c'est là qu'il faut aller. Là. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Je préfère la version de la Bible du Sommeur. Ça dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses commenceront à arriver. Et c'est vraiment une bonne traduction. C'est pas que toutes les choses vont être toutes complétées à l'intérieur des 40 premières années après que Jésus soit parti, mais toutes ces choses-là vont commencer à se mettre en marche dès la génération qui a suivi la personne de Jésus. Et dès la génération qui a suivi la personne de Jésus, tout de suite à Jérusalem, il y a eu l'invasion des armées. Le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Et le désir de Dieu, c'est « Restez pas à Jérusalem, sortez, parce que vous allez aller prêcher l'Évangile à travers le monde. » Actes chapitre 1, verset 6, vous avez trouvé? Je vais le lire. Jésus dit qu'il va partir. Il dit « Restez à Jérusalem, par exemple, jusqu'à temps que vous ayez recevoir le Saint-Esprit. » Et les disciples, ils disent au verset 6, « Ah oui! » Verset 6, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On va rester à Jérusalem, tu vas envoyer le Saint-Esprit, puis là, tu vas rétablir justement le royaume. Tu nous dis que le temple va être détruit, qu'il va arriver toutes sortes d'affaires, mais c'est à ce moment-là que tu vas relever le royaume d'Israël? » Verset 7, Jésus répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. » Ça va arriver, cette restauration d'Israël, mais le Père a décidé, puis je ne vous le dirai pas aujourd'hui qu'il dit. Mais, verset 8, vous le connaissez bien, « Mais vous recevrez une puissance. » Quelle est cette puissance? « Le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et puis vous allez devenir mes témoins. À Jérusalem, oui, dans toute la Judée, dans Samarie. Puis l'objectif, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous allez voir la pression à Jérusalem qui s'augmente, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas là que vous allez être protégé, c'est que je veux que vous allez prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la bonne nouvelle doit être répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Après ça, va venir la fin du Jésus. Et les chrétiens juifs et non-juifs, par la suite, ont contribué à sortir du cœur, du centre de Jérusalem pour aller étendre l'Évangile par toute la terre. L'autre recommandation, on la trouve au verset 28. Il dit, quand vous allez voir la soupe extrêmement chaude dans cette période de grande tribulation, sachez que ça l'approche. Sachez que dans la pire des pressions, c'est parce que je suis à la porte et j'arrive. Redressez vos têtes. Il dit au verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Puis au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se redresser. Il faut lever vos têtes. Votre délivrance approche. La délivrance du peuple juif va approcher. » Et comme je vous dis, toute cette notion du retour d'Israël comme nation, toutes ces notions de conflit au Proche-Orient avec les nations qui entourent Israël sont certainement des signes évidents du début du réveil d'Israël en vue de sa grande détresse et en vue de sa grande conversion nationale qui va amener l'établissement du royaume messianique. Tournez avec moi maintenant dans un deuxième texte, Romains au chapitre 11. Quand toute cette pression va venir sur Jérusalem, que la nation juive lève la tête, sa rédemption approche. Romains chapitre 11. Verset 11. Dans Romains chapitre 9, 10, 11, Paul parle particulièrement du plan de Dieu pour le peuple juif. Et voici ce qu'il dit au verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, ou dans d'autres mots, est-ce que c'est pour tomber définitivement que Israël a perdu pied à Jérusalem? Loin de là. Mais par leur chute, par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? » Est-ce que c'était pour tomber définitivement que les Juifs ont rejeté le Messie, puis que ça a été la détresse pour Israël? Et dit non, parce que le fait que Jérusalem a été écrasé, ça l'a permis l'évangélisation à travers le monde. L'amoindrissement des Juifs a créé l'enrichissement de qui? De nous, Comment ça se fait qu'on a pu entendre l'Évangile? Si la foi juive était restée, si la foi chrétienne était restée juste à Jérusalem, on n'aurait pas entendu la foi. On n'aurait pas entendu la foi. On n'aurait pas répondu à l'Évangile. On n'aurait pas été sauvés. Mais à cause que ça a brassé à Jérusalem, l'Évangile est venu jusqu'à nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour Israël? Le texte dit non. Si leur chute a été la richesse du monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus à un moment donné où Israël va faire quoi, il nous dit le texte? Il va se convertir. Quand est-ce qu'ils vont faire ça? Quand est-ce qu'Israël va dire, Jésus, c'est toi le Messie, nous nous repentons, viens comme notre Sauveur, notre Seigneur? Ça va être quand ça va brasser à Jérusalem, puis que les armées vont être écrasées, puis qu'Israël n'aura plus d'espoir autre que dans son Messie. Regardez les versets 25 à 27 du même chapitre. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Faisons attention, nous, païens, non-juifs, qu'on ne se pense pas plus fin que les Juifs. « Ha, ha, nous autres, on a accepté le Seigneur, puis vous autres, vous le cherchez encore. Ha, ha. » Non, non. Attention de ne pas se penser plus fin qu'eux autres. Remerciez Dieu que l'Évangile est venu vers vous, puis que vous avez ouvert votre cœur à l'Évangile. Rions pas la difficulté des Juifs. « Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est ce que l'on voit dans ces siècles-ci. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à ce que la plénitude des païens, parce que c'est la priorité vers les païens maintenant, que la plénitude des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon que tu es écrit. Et à ce moment-là, Israël va être sauvé parce que le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, le peuple juif à nouveau, lorsque j'ôterai leurs péchés. Quand Jésus dit la pression va être finale sur Jérusalem, juifs, prenez espoir, redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche. Le temps des nations tire à sa fin. Et ça va être suivi par l'enlèvement de l'Église. Et ça va être suivi après ça par une conversion nationale des Juifs. Quand la planète va être marquée par l'angoisse, la terreur suite au bouleversement planétaire, ce qui est la grande tribulation, la nation juive va devoir lever les yeux et réclamer la délivrance de son Messie. Et en le faisant, le verset 27 de Luc 21, « Le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire. » Des recommandations d'abord pour les Juifs. Mais je trouve aussi que dans le texte de Luc 21, Jésus termine son message aussi avec d'autres recommandations pour chacun de nous, pour tous ceux qui vont entendre l'Évangile, pour tous ceux qui, à travers la planète, qui vont avoir reçu ce message-là. À eux, au verset 34, il dit, « Faites attention, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même, verset 34, de que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, puis que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Il dit, veillez attentivement sur vos cœurs. Faites attention de ne pas vous laisser endormir par la vie. Faites attention de ne pas vous laisser déprimer par les soucis de cette terre. Faites attention pour ne pas juste être bien manger, bien boire, puis être satisfait, puis dormir sur place. Oh! Je suis heureux dans la situation qu'on est là, garder nos yeux à terre puis attendre le prochain Noël pour les cadeaux. Faites attention, il dit, prenez garde à vous-même. Si on ne lève pas les yeux plus haut que la routine matérielle dans nos vies, on va perdre notre anticipation du retour de notre Sauveur. Nos cœurs vont s'apesantir par le confort, par le matérialisme, par les soucis du monde. Ça va venir engourdir notre esprit. Puis Dieu dit, il y a un problème. Oui, il va y avoir de la pression chez les Juifs, mais par toute la terre, faites attention. Faites attention de ne pas vous endormir. De ne pas, après avoir pris comme un bon repas, je m'en vais dans le salon, puis je m'étends, puis qu'est-ce qui arrive avec mes yeux? Ça s'apesantit, puis je dis goodbye pour une demi-heure. Faites attention que votre préoccupation n'est pas sur toutes les choses de la terre, le manger, le boire, les soucis. Parce que si vous gardez ça, si vous nourrissez juste de cette attente-là, des factures qui arrivent à la fin du mois, vous allez perdre de lever la tête puis d'attendre la vraie bonne nouvelle, la bonne enveloppe. le retour du Seigneur Jésus. Prenez garde. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je serais surpris? Est-ce que je serais tout à l'envers? Est-ce que je serais honteux? Est-ce que je serais endormi? Comme si on recevait une personne importante sans avertissement, puis que la maison était toute à l'envers. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il arrive. Prenez garde à vous-même. Prenons garde à nos vies pour ne pas être pris dans le filet du péché, dans le filet de la mondanité, dans le filet de la négligence lors du retour du Seigneur. Que ça ne nous tombe pas dessus à l'improviste, qu'on ne soit pas captif de son retour, mais qu'on l'attende. Maranatha, qu'on l'attende avec anticipation, puis qu'on fasse l'œuvre que Dieu s'attend dans nos vies. Sanctifions nos vies parce qu'il revient bientôt. Jésus dit, prenez garde. Mais je ne suis pas capable tout seul de prendre garde. Alors, il ajoute une autre caractéristique. Veillez et priez. Demandez l'aide de Dieu dans l'attente de son retour. Notre vie exige la puissance de Dieu dans nos vies, l'aide de Dieu pour être capable de rester debout au milieu d'une génération qui a abandonné la foi. Oui, notre monde ne nous aide pas à rester debout et attendre avec impatience le retour du Seigneur. Alors j'ai besoin de veiller, de garder les yeux ouverts et de prier que Dieu m'aide à rester vigilant. Et ça, c'est un combat de tous les instants. Prenez garde, il dit, veillez donc et priez en tout temps. C'est un combat de tous les instants. On a besoin de veiller, prier pour retrouver notre assurance de la présence de Dieu dans nos vies, pour être capable d'affronter les défis quotidiens de la vie, puis en même temps d'être capable d'attendre son prochain retour avec anticipation, avec excitation. Je disais cette semaine un beau texte dans Jude. Verset 20 et 21. Ça dit, pour vous, bien-aimés, priant par le Saint-Esprit, priez, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans cette communion, dans cette relation avec Dieu et son amour, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour, puis continuez d'attendre son retour. Nous ne sommes pas en plein milieu d'Israël pour voir toute la pression. Mais la même recommandation s'adresse à nous. Quand vous allez voir toutes ces choses, nous aussi, Dieu nous appelle à relever, à lever nos têtes, parce que notre délivrance approche. La prière pour chacun de nous ce matin, c'est que le beau et l'excitation de notre attente de Noël, que cette anticipation, que cette attente soit simplement un faible reflet d'une anticipation encore plus grande. L'anticipation que Jésus revient, peut-être aujourd'hui, peut-être avant Noël. Est-ce que je vais l'attendre? Oh Seigneur, donne-nous de prendre garde, de nous endormir, puis d'oublier que tu reviens bientôt. Seigneur, donne-nous de veiller, de prier. Donne-nous d'attendre avec anticipation ton retour. Et reviens. Viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons pour nous libérer de cette terre, pour nous amener vers toi dans une félicité éternelle, dans un bonheur sans fin, parce que tu en seras le centre. Maranatha. Amen.